Ok, cool. Donc le thème du groupe de jeunes, si vous ne le savez pas, c'est quoi? Ceux qui savent, dites, ceux qui ne savent pas.
Je suis la lumière, vous êtes la lumière du monde.
Voilà, c'est Jésus qui a dit dans deux versets des évangiles. D'abord, il a dit une première fois, vous êtes la lumière du monde. Et après, il a dit une deuxième fois, je suis la lumière du monde. D'accord? Vous êtes la lumière du monde, c'est dans Matthieu 5, 14. Et je suis la lumière du... je suis la lumière du monde dans Jean 8, 12, et vous êtes la lumière du monde dans Matthieu 5, 14. Ok ? Alors, on va voir comment être des lumières à travers une histoire d'arbres et de fruits, si ça ne vous dérange pas. Donc, vous pouvez prendre... Vas-y, tu peux passer à la première. Super. Donc, vous pouvez prendre Jean 15, et je vais lire des versets 1 au verset 11. Jean 15, des versets 1 au verset 11. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, vous avez ici le fondement de ma luminosité. Je ne vais pas vous apprendre, entre guillemets, comment appuyer sur l'interrupteur ou comment allumer la bougie, parce que ça, pour moi, c'est la nouvelle naissance. C'est le fait qu'on passe de pas chrétien à chrétien, de pas sauvé à sauvé. Et c'est cette nouvelle naissance qui allume le feu. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas dit « vous devez être des lumières », il a dit « vous êtes des lumières ». Je vais plutôt essayer de voir comment est-ce qu'on peut ranimer la flamme, voilà, voir un peu comment on peut la tenir éveillée, mais voilà, pas l'allumer, puisque ça c'est la nouvelle naissance. Dans ce texte, on a Jésus, et c'est un peu comme si moi par exemple, Laurent, il va mourir ce soir, il le sait déjà, mais avant de mourir, il a le droit de donner un petit mot à tout le monde. Donc après mon passage, il viendra sur la chaire et puis il nous dira un petit mot parce qu'il va mourir ce soir. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire, Laurent ?
Croyons en Jésus.
D'accord, merci. En fait, là, c'est un peu ce qui se passe. Jésus, il va mourir quelques heures après. Et là, il est dans un grand discours qu'il fait à ses disciples, du chapitre 13 au chapitre 16. Donc, juste avant de mourir, il réunit ses disciples, il y a Judas qui est déjà parti, et il est donc au milieu de son grand discours d'adieu, et il va leur parler de différentes choses, et il va conclure son discours par la prière. Dans les heures qui suivront, comme je vous l'ai dit, il sera crucifié. Et maintenant, il va leur expliquer comment et pourquoi être un disciple, comment et pourquoi briller. Voici le cœur de son message. Ressemblez à Jésus. Ressemblez à Jésus, célèbre Dieu et nous rend joyeux. Ça, c'est le cœur du message de ce texte. Et c'est ce que, s'il y a une phrase que vous devez retenir ce soir, c'est ça. Ressemblez à Jésus, célèbre Dieu et nous rend joyeux. Et on va voir à travers ça qu'est-ce qu'on peut apprendre, notamment vis-à-vis de le fondement de ma luminosité qui est le thème du jour. Donc, on va voir, j'ai divisé le texte en quatre parties, donc on va voir quatre parties. La première, c'est du verset 1 au verset 3, briller en portant du fruit. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que toute lumière doit briller, vous le savez, plus ou moins, mais toute lumière brille. Et je pars du postulat de départ aussi que tout arbre doit porter du fruit. Et sinon, comme dit le texte, mais bon, je ne vais pas trop vite. Donc Jésus parle à ses disciples. Il leur dit qu'ils sont purs parce qu'ils ont cru en Jésus, qui est la parole annoncée. Et remarquez qu'il ne leur dit pas que ce n'est pas parce qu'ils croient qu'ils sont sauvés, mais c'est parce qu'ils croient en Jésus. Notez bien la différence. Ce n'est pas parce que je crois que ce pupitre peut me sauver ou que ça peut me sauver. Je peux croire en n'importe quoi. Ce n'est pas ça qui va me sauver. C'est l'objet de la foi qui va me sauver. Et ses disciples, ils ont cru en Jésus. Et c'est ça qui les a sauvés. Si vous êtes au milieu d'une jungle et qu'il y a un pont en liane qui traverse un précipice, si vous voulez aller de l'autre côté, vous devez non seulement croire que le pont y tienne, mais aussi que le pont tienne. Si le pont y tient pas, même si vous y croyez dur comme fer qu'il va tenir, vous tomberez au fond. C'est parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus, qui est la parole parfaite, qu'ils sont considérés comme purs. Mais pour autant, Jésus, il va quand même les mettre en garde. Il utilise une image d'un arbre que tout le monde connaissait à l'époque, la vigne. Pour nous, c'est un peu moins connu, mais si vous voulez, c'est un peu comme n'importe quel arbre, sauf que le vigneron va attacher une importance un peu particulière à cette vigne. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il lui produise du vin, et le meilleur vin. Mais, donc... La vigne, c'est l'arbre à raisin. Pour faire simple, je ne sais pas si vous venez tous de la campagne, moi j'y viens, donc c'est clair pour moi, mais c'est l'arbre à raisin, pour faire simple. Les sarments, c'est les branches de la vigne. D'accord ? Donc il y a le tronc de la vigne, qui est le cep, les sarments, qui sont les branches, et les fruits, sur lesquels il y a ou qu'il n'y a pas d'ailleurs. Du coup, il y a deux, dans cette parabole de la vigne, il y a deux types de branches, il y a les bonnes, les mauvaises. Mais elles font toutes partie de l'arbre, même si elles sont mortes quelque part. Pourquoi ? Parce qu'elles ne portent pas de fruits. Comme je vous ai dit que le fondement et l'objectif de la lumière, c'est de briller, l'objectif de la branche, c'est de porter du fruit. Nous sommes des branches, donc nous devons porter du fruit. Et même si elles ont peut-être un beau feuillage vert, si elles n'ont pas de fruits, il y a un problème. Vas-y Alain. Je vous ai mis une belle image de beaux fruits que vous pouvez admirer. Et voilà à quoi vous devez ressembler. Mais si vous ne portez pas des beaux fruits comme ces belles cerises, la Bible nous dit qu'elles seront coupées, rejetées. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, parce que le vigneron veut le meilleur vin possible. Dieu veut que sa vigne soit la meilleure possible. Et il veut un peuple parfait. Et il ne peut pas tolérer, du coup, des pécheurs qui ne sont pas pardonnés. Un disciple qui ne porte pas de fruits, c'est comme une lumière éteinte. Elle ne brille pas et elle ne sera pas sauvée. Elle sera jetée au feu. Jacques nous dit dans la fin de la Bible que la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Quel fruit vous portez ? Dans la suite du texte, il est dit que ceux qui portent du fruit en porteront encore plus. Vous allez peut-être trouver ça injuste, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tous porter un petit peu de fruit ? Comme ça, on serait tous égaux et ce serait cool. Non, ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Souvenons-nous que dans les graines de la parabole du semeur, il y a quatre graines. Il y a combien qui portent du fruit ?
Une seule.
Une seule. Une seule qui porte du fruit. Et Dieu va tailler sept personnes qui portent du fruit par la souffrance, par les épreuves de la vie, par différentes choses. Pourquoi ? Toujours parce qu'il veut ce meilleur vent possible. Et ça va lui permettre à cette branche, à cette personne, d'être plus semblable à Jésus. Et c'est là où on en vient à la notion de fruit. Il y a beaucoup de notions, cette notion de fruit, elle est énormément présente dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Mais là, dans ce texte, la notion de fruit veut simplement dire semblable à Jésus. Quand on regarde le contexte et quand on voit un peu ce qu'il y a autour, on se rend compte que c'est vraiment ça, en fait. C'est être semblable à Jésus en parole, en acte. C'est ressembler à Jésus dans le caractère, dans ses vertus, comme la sainteté, la justice, la joie, la paix, la patience. Mais aussi dans les actions, comme la proclamation de l'Évangile, le discipulat, l'amour, ressembler à Jésus, c'est tout ça, le fruit. Mais toutes ces choses sont réalisables uniquement si nous sommes attachés au tronc Jésus. Et on arrive à notre deuxième partie. Briller en étant connecté à Jésus. C'est donc là, verset 4 au verset 6. Comme nous dit le texte, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Si un jour je m'amuse à couper une branche d'un arbre et à la planter dans la terre, il y a très peu de chances pour qu'elle me donne des fruits au bout de la première année, ou de la deuxième même. L'homme est incapable de faire le bien par lui-même. Dieu le fera à travers de nous si nous demeurons en lui, si nous restons attachés, connectés à lui. Pour faire briller une lampe, il faut allumer sur l'interrupteur. Vas-y Alain, mets-la sur. Vous avez une belle lampe. Une fois qu'on a allumé la lumière, qu'est-ce qui l'entretient, cette lampe? Qu'est-ce qui fait qu'elle reste allumée? Pardon? Ouais, le courant, l'électricité.
Le créateur d'homme.
Pardon?
Là, c'est Dieu qui nous allume.
Ouais, oui, c'est ça. C'est là où je veux en venir, exactement. Si la nouvelle naissance, donc c'est on appuie sur l'interrupteur, et ensuite, on brille. Il faut que le courant passe. Si un jour le courant ne passe pas, s'il y a une coupure de courant, la lumière elle brille plus. Et dans ce cas-là, c'est le noir. Vas-y, mets le noir. Voilà, voilà une peau noire. Il faut qu'on reste attaché à ce courant pour pouvoir briller. Sinon, on ne brille pas. Demeurer en Jésus, c'est-à-dire demeurer dans ses paroles. Et pour nous, Jésus il parle ici de l'importance de la prière et de la lecture de la Bible. Et notamment, je pense, de la mémorisation des versets. Et c'est comme ça que lui était en communion avec Dieu. Quand il montait sur la montagne, ce n'était pas pour faire de l'alpinisme. Il y a plusieurs passages dans les évangiles où Jésus monte sur la montagne. Il ne va pas cueillir des fleurs, il ne va pas faire de l'alpinisme. Il allait pour prier, pour passer du temps avec son Père. Si Jésus il devait t'enseigner une chose, qu'est-ce que tu lui demanderais? Ouais, s'il devait t'enseigner une chose.
La sagesse.
Pardon? La sagesse. D'accord. Les disciples, ils étaient avec Jésus pendant beaucoup de temps et ils ont demandé à Jésus qu'il leur enseigne la prière. Ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est intéressant, ils leur ont répondu « Enseigne-nous à prêcher comme tu fais en utilisant des images super, des paraboles ». Non, ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Alors, ils ont peut-être demandé d'autres choses aussi, mais ça en tout cas, ça nous a rapporté dans les évangiles. Donc ça veut dire que c'est particulièrement important. Prions, passons du temps seul à seul avec Jésus, mémorisons la Bible, apprenons des versets pour pouvoir les ressasser en nous quand on n'a pas notre Bible sous la main. Et c'est comme ça que Jésus et ses paroles demeureront en nous. Personnellement, c'est depuis que je suis converti, je suis le programme La Bible en un an. Donc ça me permet de lire la Bible en une année, avec chaque jour quelques chapitres. Ça fait 4 ou 5 chapitres par jour, c'est pas beaucoup en fait. Enfin, quand on met tout bout à bout, il faut suivre le rythme. Mais si on est assez discipliné, on peut y arriver. C'est ça, en fait, ma nourriture quotidienne. Et je ne suis pas parfait. Des fois, j'ai du retard que je rattrape ou que je ne rattrape pas. C'est ça, la nourriture quotidienne. Et c'est ça qui me permet d'être attaché à Jésus. Quand je suis rentré de vacances, j'avais fait des camps super tout autour de France et tout ça. C'était génial et tout ça. Plein de jeunes super motivés et tout. La reprise du rythme, c'était très difficile. C'était il y a plusieurs semaines, et j'ai passé notamment une semaine où j'ai eu énormément de mal à avoir une discipline quotidienne de la Bible. Et pendant une semaine, j'ai très peu prié, très peu lu la Bible. Et à la fin de la semaine, je me suis dit, mince, là, Nicolas, ça ne va pas, il faut que tu te reprennes. Donc la semaine suivante, et c'est la semaine qui a passé, là, j'ai pris, donc chaque matin, je me suis forcé quelque part à prendre ce temps avec Dieu, avoir cette discipline particulière. Et j'ai remarqué plein de choses, notamment que je tombais beaucoup moins en tentation dans certaines choses dans lesquelles moi je sais que je suis faible. D'autre part, je me suis rendu compte que j'avais de plus envie de lire la Bible et plus envie de prier. Et en fait, c'est ça que je vais vous montrer, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place. Une fois que vous commencez à être fidèle à Dieu dans des petites choses et dans le matin prendre 5, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ensuite, petit à petit, Dieu vous donne en lui ce goût de sa parole et ce goût de la prière. Et petit à petit, vous avez envie de passer plus de temps avec lui. Et il le fait, et donc ça nous permet de ressembler à Jésus en maintenant ces temps comme ça. Et ça permet pour sa gloire et pour notre joie. Et pourtant, ce n'est pas facile, et ce sera difficile, ce sera un combat pendant toute votre vie. Vous connaissez peut-être C.S. Lewis, c'est le gars qui a écrit les Chroniques de Narnia notamment, c'était un apologète brillant, un mec célèbre en Angleterre. Il a dit que la meilleure tactique du diable, c'est tout faire pour empêcher le chrétien de prendre sérieusement la résolution de prier. Tout faire pour empêcher le chrétien de prendre sérieusement la résolution de prier. Ça, c'est la meilleure tactique du diable, selon C.S. Lewis. Non, c'est pas tout à fait biblique, mais c'est pas contre ce que dit la Bible. Donc, et je pense que c'est ça, qu'il y a quelque chose de vrai. Et nous, qu'est-ce qui nous empêche de prier ? Vas-y, Alain. Regardez, c'est une petite... vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, il se baladait sur Internet. Ouais, c'est un truc qui se baladait sur les réseaux sociaux. Enfin, pas le bonhomme, hein, le dessin lui-même. Et c'est des gens qui se sont rendus compte que Internet, ça prenait une place dans leur vie et ça les empêchait d'atteindre leurs objectifs dans la vie. Alors, vas-y, mets le suivant. Voilà, et donc moi, je le transforme grâce à mes talents de graphiste incomparables. avec, peut-être que nous, on a des fois aussi des problèmes comme ça. Est-ce que c'est Internet qui nous empêche de lire la Bible ou la prière ? Vas-y, mets les deux, trois autres qui suivent. Encore. Merci. Qu'est-ce qui vous empêche de prier ? Qu'est-ce qui vous empêche de lire votre Bible ? Réfléchissez-y sérieusement. C'est des choses... prenez des décisions. Dites, aujourd'hui, je ne vais pas dans mon lit entre 9h et 23h. Ou je ne sais pas, ça dépend quel est votre problème. C'est peut-être autre chose. Hein. Mais essayez de faire des choses pour avancer et pour réussir à prendre cette discipline dans votre vie de prière.
Oui, c'est ce que tu as dit.
Y a un petit bonhomme qui court et il y a un grand trou devant lui. Et au fond de ce trou, il y a Internet, smartphone, mon lit, les séries, les films, différentes choses qui nous empêchent d'atteindre les objectifs qui sont de l'autre côté du grand trou. Et donc, on ne peut pas atteindre, ou alors il faut sauter très haut pour atteindre soit les objectifs qu'on a dans la vie, soit la lecture de la Bible ou la prière. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui est satisfait de sa vie de prière ? Ça tourne bien. Spurgeon, il a dit, c'était un prédicateur anglais, il a dit qu'il n'y a rien de plus humiliant pour un homme que de parler de sa vie de prière. Et je pense qu'il y a, c'est vrai. Et je pense que pour une femme, c'est peut-être pareil, peut-être un peu moins, mais c'est pas loin non plus. Et j'ai récemment compris pourquoi est-ce qu'on ne prie pas. Alors, je suis tout fier, je vais vous le dire. Si on ne prie pas, ce n'est pas par manque de motivation, ce n'est pas par manque de temps, ce n'est pas par manque de volonté. Si on ne prie pas, c'est par orgueil. Si on ne lit pas notre Bible, c'est parce qu'on se croit fort et qu'on pense réussir nos occupations par nos forces. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas le temps de lire la Bible et de prier. Si on était convaincu qu'on devait puiser notre force dedans comme on puise notre nourriture, comme une voiture a besoin de gasoil pour fonctionner, on prendrait plus le temps de se plonger dans la vie de Dieu. Mais on est trop fort, on se dit « oui, bon, je sais faire ça, j'arrive à vivre ma vie sans Dieu quelque part. » Par orgueil, c'est l'orgueil qui nous empêche de prier. Et si vous êtes engagé dans plein de choses autour de plein de services pour Dieu, le ménage à l'église, la vaisselle, des choses comme ça, ou alors prêcher à droite à gauche, ou alors enseigner, ou alors participer simplement à plein de trucs pour Dieu dans votre église et en dehors, j'aimerais juste vous dire que ne laissez pas le service pour Dieu prendre la place de votre relation avec Dieu. Il y a un autre prédicateur anglais qui a dit « La mesure de la valeur de notre activité publique pour Dieu, c'est la profondeur de la communion que nous avons avec lui dans le privé. » Je le refais. « La mesure de la valeur de notre activité publique pour Dieu, c'est la profondeur de la communion qu'on a avec lui dans le privé. » De même, je vous invite à ne pas prier simplement quand vous avez besoin de Dieu. Vas-y, Alain. Est-ce que quelqu'un peut traduire si vous voulez le faire ? Chaque jour, je reçois plus de prières pour des places de parking que pour autre chose. Vous devriez réfléchir. Vous avez besoin même de réfléchir à penser plus grand et à voir des choses autrement que simplement vos choses. Priez, pas simplement quand vous avez besoin de Jésus. Quand vous êtes, moi, quand je suis en retard le matin, Il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à abandonner, c'est mon petit déjeuner. Et j'ai vraiment besoin de mon petit déjeuner pour avant de partir en cours. Et je me dis, si simplement je pouvais avoir cette même envie et ce même besoin de prendre le petit déjeuner que j'ai besoin de lire la Bible, ce serait juste trop bien. Et voilà, encore une image pour vous encourager à avoir cette discipline régulière. Et les exemples bibliques ne manquent pas. Ce que je vous dis, c'est... Voilà, je vous ai parlé de Jésus tout à l'heure. Paul, dans Actes 10, verset 9, on a David qui méditait constamment les commandements de Dieu. Vous pouvez le lire au psaume 119. On a Daniel qui est prié 3 fois par jour. Il a même été dans la fosse aux lions pour ça. On a Paul qui, dans pratiquement toutes ses épîtres, parle de la prière, au moins d'une manière ou d'une autre. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit « Priez sans cesse ». Dans 1 Timothée 2, 1, il dit « Avant toute chose, faites des prières ». Dans toutes ses épîtres, quasiment, il parle de la prière. Il parlait beaucoup plus de la prière que de l'évangélisation. La prière, c'est la respiration du chrétien. On respire, on inspire la parole de Dieu et on expire la prière. Et Dieu, dans le texte, nous promet quelque chose d'incroyable, une réciproque, bien plus que mathématique. Si nous demeurons en lui, alors il demeure en nous, et vice-versa. Jésus est implanté dans notre cœur si nous croyons à sa parole. En cultivant cette relation par la lecture de la Bible et par la prière, nous sommes ressourcés par l'action de Jésus dans notre vie. On ne peut pas se dire chrétien sans lire la Bible si on en a accès et sans prier. C'est juste impossible. Clément, est-ce que tu signes si je te propose une relation avec Tatiana, mais tu n'as pas le droit de la voir, pas le droit de la toucher et pas le droit de lui parler? une image vraiment toute simple. Réfléchissez, est-ce que vous pourriez avoir une relation amoureuse avec quelqu'un sans la voir, sans lui parler, sans lui, aucun des 5 sens? C'est juste, on ne peut pas entretenir une relation comme ça. Et Dieu, il veut entretenir une relation avec nous. C'est de cette manière-là qu'il nous le demande. Et encore une fois, dans la suite du texte, Jésus avertit du danger de la stérilité. Encore une fois, il explique qu'on peut être scotché au plant de vigne, mais ne pas recevoir la sève qui donne la vie et qui donne le fruit, la lumière qui n'a pas d'électricité. Être dans l'Église, passer pour un chrétien, mais ne pas être un disciple, ne pas être né de nouveau. Finalement, celui-là subira le même sort, le sort terrible de la malédiction de Dieu, le feu éternel. Le texte nous dit, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Je ne suis pas en train d'inventer. Je ne veux pas vous faire peur, mais Jésus, il a tellement parlé de l'enfer quand il était sur terre que je ne veux pas occulter cette partie du message. Et beaucoup de gens dans nos églises, je pense, iront en enfer. J'espère pas, mais je pense. Mais Jésus veut que nous soyons sauvés. La vie du chrétien, c'est un vrai combat, un bon combat. Et la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que Jésus nous dit. Il y a vraiment cette idée de persévérance et de combat, d'effort à fournir. Et c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Toute chose que nous faisons, c'est lui qui nous en donne la force. Vas-y, mets la diapo suivante. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'on comprend ce verset? Est-ce qu'on le vit? Affichez-le dans votre chambre, partout. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est Jésus qui est la source de toute chose. Et c'est pour ça qu'on doit passer du temps avec lui. Maintenant, j'aimerais juste qu'on prenne peut-être 2 minutes et que s'il y en a, on est plein, on a plein de choses, on a tous une vie avec Jésus. Et est-ce qu'il y en a qui ont des suggestions à faire ou des astuces pour prier de manière personnelle, plus ou mieux, ou passer plus de temps à la prière?
Moi, c'est super pragmatique.
Ouais.
Enfin, il y a un moment où j'étais plus discipliné.
Ouais.
Et ce truc qui marchait, c'était de...
C'était
de mettre le réveil 15 minutes avant l'heure à laquelle j'étais censé me lever. Au début, c'était un peu dur, parce que du coup, je l'ai réveillé. Et après, je me suis dit un peu discipliné. Et puis, mine de rien, j'avais un quart d'heure en plus dans ma journée. Vraiment pour ça, pour prier et tout. Et après, ça grandit en fait. Le but c'est que nous, on se lève de plus en plus tôt, enfin c'est pas dire qu'on se lève à 5h du mat, enfin si vous pouvez le faire c'est génial quoi, mais vraiment je me rends compte que ça m'a beaucoup apporté comme chose quoi. Donc la technologie c'est bien pour chatter et tout, mais ça peut être aussi un bon moyen de régler notre temps quoi.
Des astuces.
Ouais. Bon, moi, en fait, depuis un an, je crois quoi, je sais pas quand prier et tout. Et genre, moi, je sais pas pourquoi, je me suis un nocturne, je fais mon recommande personnel souvent le soir. Mmh. Et genre, après, faut prier. Et après, moi, je fais la prière, après, je m'allonge. Après, je dors, mais je m'allonge, après, je prie. Et genre, je sais pas, c'est. T'es fatigué et tout, tu es allongé, soit tu dors, tu regardes pas ton portable. Enfin, je sais pas, mais t'es concentré à dormir, donc du coup, t'as rien à faire. T'as vraiment l'envie de prier et tout. Bah, tu racontes ta semaine, ta journée à Dieu, tu lui dis ce qui t'a plu, ce qui t'a attristé, ce qui t'a attristé, et tu craches tout ce que tu veux, quoi. C'est quand tu fais la prière de la nuit, quoi.
D'accord.
C'est ça.
Merci.
Oh, par contre, avant, c'est ce que je faisais. Je me suis dit, comme quand on fait beaucoup, beaucoup de choses, on dit vraiment le soir, on va prier et tout, avant de dormir, et ce que je faisais tout le temps avant. Et, sauf que ça m'est déjà arrivé de faire ma prière, de m'endormir, et le matin au réveil, je disais Amen.
Amen, pareil.
Ah, moi aussi, ouais.
Choses et le temps me manque beaucoup, mais le peu de temps que je peux vraiment consacrer à Dieu, c'est mettons quand je suis dans ma voiture, je vais vraiment prier, après c'est le matin au réveil, c'est des fois, je sais pas, on va aller dehors, on va faire la queue à une caisse, on va prier.
Tu pries quand tu veux en fait.
Voilà, c'est vraiment prier en permanence quand le temps, enfin quand on sent que vraiment. Après voilà, tu arrives chez toi, tu vas prier aussi, mais vraiment quand le temps te manque. En tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, je manque beaucoup de temps, c'est vraiment comme ça que ça se passe comme ça en ce moment. Quoi. Donc,
Je conseille vraiment de prendre ce temps le matin parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de génial de commencer la journée avec Dieu. En fait. Ouais, parce que souvent, on arrive le soir, ah ouais, Seigneur, t'étais là.
On est fatigué.
Mais je pense vraiment, je pense que c'est bien. Enfin, moi, je prie le matin, mais je pense qu'il y en a qui prient le soir et je pense qu'il faut que j'apprenne aussi à prier le soir. En fait. Enfin, je pense que les deux sont à peu. Jésus, en tout cas, des exemples de la Bible où Jésus priait. Il priait et le matin et le soir. Il se levait plutôt le matin, aller à l'écart. Mais la prière de Gethsemane, il me semble que c'était le soir.
Vous connaissez Luther, un des grands réformateurs allemands. Il a dit « J'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas passer les deux premières heures de ma journée sans prier. » J'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas passer les deux premières heures de ma journée sans prier.
En gros, tellement de choses à faire,
il est
obligé de les remettre à Dieu, mais tu es obligé de passer deux heures sans
prier. Je sais qu'il y avait le pasteur quand on était au camp, au campus, là, pendant l'été, il disait que c'est vrai qu'une fois le soir, comme dans notre lit, on s'endort en fait parce qu'on est fatigué. Donc des fois, on peut prier debout, par exemple. On peut se lever, prier debout, pour nous forcer à pas nous endormir, finalement. Enfin, des astuces comme ça, en fait. Tout ce qui nous fait tomber, essayer de faire l'inverse pour pas qu'on tombe, finalement.
J'ai un ami qui priait, ils étaient deux. Ils étaient en colère le matin. Et ils se mettaient tous les deux face à face, comme ça. Et s'ils tombaient, ils tombaient sur l'autre. Quand ils priaient. On va passer donc à la troisième partie, briller pour la gloire de Dieu, versets 7 et 8. Je vais vous relire le texte parce qu'on l'a peut-être un peu oublié depuis. Non, plus de paroles de Dieu, ça ne fera pas mal. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Si on suit la vie du disciple que Jésus nous demande d'avoir, il nous promet d'écouter toutes nos prières, et même encore plus, selon ce texte, d'y répondre. Quelle joie et quel pouvoir on a. Le Dieu qui a tout créé et qui maîtrise toutes choses dans ce monde, il nous promet de répondre à tous nos besoins et de nous accorder ce que nous demandons. Alors là, je vous attends tous. Mais pourquoi Jésus ne répond pas à mes prières ? J'ai fait un camp comme ça, et il y a un gars qui m'a demandé... Moi, j'ai prié pour ma grand-mère, et elle avait des problèmes de santé, et puis elle est morte. Et, enfin, il a prié pour sa guérison, mais comment ça c'est ? Alors, première chose, Dieu, là, dans ce texte, il parle à ses disciples. Il ne parle pas à n'importe qui sur la terre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas disciple, je pense qu'on ne peut pas dire la même chose pour vous. Il parle à ses disciples, il leur dit... Si vous demeurez en moi, il y a aussi cette condition de rester attaché en vous, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc si tu corresponds aux conditions préalables du disciple qui sont expliquées dans ce texte, voici d'autres pistes de réflexion qu'on peut trouver dans la Bible. Peut-être est-ce que tu demandes dans le but de satisfaire tes propres passions. Ça, c'est dans Jacques qui dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas puisque vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Deuxième point, et peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5,14, il nous dit que si on prie selon sa volonté, Dieu nous répondra. Dans le psaume 66, verset 18, peut-être qu'on cultive un péché particulier. Dans le psaume 66, il y a le psalmiste qui dit que Dieu se détourne de lui parce qu'il cultive un péché particulier. Dans Marc 11, 24, peut-être qu'on manque de foi. Et dans Marc 11, 24, il y a cette notion de foi qui est ajoutée par Jésus. Dans Luc 18, Jésus, il explique qu'il veut que des fois nous persévérions dans la prière. C'est, vous savez, cette histoire avec la veuve qui va voir le juge inique. Et la première fois, du coup, on peut dire, bah oui, mais la première fois, le juge ne répond pas. Donc ça veut dire que Dieu ne répondrait pas la première fois. Peut-être qu'il veut nous voir persévérer dans la prière. Et dans Daniel 10 et 12, et c'est ma dernière occurrence, peut-être que Dieu prépare des choses incroyables et qu'il nous éprouve par elles. Et pour elles d'ailleurs. Donc peut-être qu'il répond pas tout de suite pour qu'on vive d'autres choses d'abord. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre et des fois il ne répond pas de la manière dont on pourrait le penser ou au temps où nous on voudrait le penser. Des fois les gens ne comprennent pas trop le fait que Jésus, quand il répond à nos prières, il célèbre sa gloire. Eh bien, je vais vous le montrer de manière très simple. Si là, on a un gros problème de PowerPoint, et que moi, j'ai absolument besoin de mon PowerPoint pour continuer, je vais aller auprès d'Alain, je vais dire « Alain, s'il te plaît, fais quelque chose !» Puis Alain, il va être là, il va essayer. Si je dis « Alain, s'il te plaît, il faut que ça marche, je ne peux pas continuer !» Puis voilà, je vais attendre 5 minutes, et puis finalement, Alain, il va réussir. Qui est-ce qui va recevoir la gloire dans la situation ? Ouais, c'est Alain. C'est Alain qui va... Inconsciemment ou pas, vous allez vous dire, waouh, Alain, il est balèze. Et avec Jésus, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Si on lui fait part de nos problèmes, il va nous répondre et ça va le permettre de le mettre en valeur. Il veut qu'on soit dépendant de lui et c'est en étant dépendant de lui que lui célébrera sa gloire. Je continue dans le texte. On pense parfois qu'on porte du fruit parce qu'on est un disciple. Et ce texte nous enseigne justement l'inverse. Verset 8. Si nous prouvons notre foi par nos actes et par notre caractère... Attends, je vous lis le verset 8, pardon. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Ce n'est pas parce qu'on est un disciple qu'on porte du fruit. C'est parce qu'on porte du fruit qu'on est un disciple. C'est pas parce qu'on est un disciple qu'on porte du fruit, c'est parce qu'on porte du fruit qu'on est un disciple. Le fruit est une condition préalable au beau nom de disciple de Jésus. Donc un disciple qui ne porte pas de fruit n'en est pas, tout simplement.
C'est quel
verset ? Verset 8. Donc, un chrétien doit faire ce que Jésus il enseigne. Un autre verset de l'Évangile, en Matthieu 7, 21, Jésus dit « Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu, seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » y rentrera. Encore une fois, je pose la question. Est-ce que vous portez du fruit? Quel fruit vous portez? Est-ce que vous ressemblez de plus en plus à Jésus? Est-ce que par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a 2 ans, vous dites « Ah, les gens ils disent que je ressemble plus à Jésus » ou « Je trouve que je ressemble plus à Jésus » de manière objective. C'est bien de prier et de lire notre Bible, c'est bien de demeurer en Jésus, mais on doit l'appliquer dans notre vie, sinon on va devenir des pharisiens. Gardez les commandements de Dieu. Quel est le plus grand commandement de Dieu?
Ton cœur, ta force,
toute ta pensée. Ouais. Ouais, c'est ça. Les deux, en fait, ils sont liés. Ton Dieu de tout cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain, comme toi-même. Les deux. Jésus dit que le second lui est semblable. Les deux vont parfaitement ensemble. Quel est le but de notre vie? La finalité de toute action chrétienne, c'est d'honorer Dieu et de lui rendre la gloire, la puissance. Un grand théologien a dit « À lui la gloire, à nous la joie. » Je vous mets la citation en VO. Alain, s'il te plaît. « He gets the glory, we get the joy. » À Dieu la gloire, à nous la joie. C'est vraiment, c'est l'évangile, quelque part. Jésus veut célébrer sa gloire et il veut que nous soyons heureux. J'y reviendrai à la fin. Notre dernière partie, tu peux enchaîner, briller pour notre joie. Et donc, c'est verset 9 au verset 11. Dieu, il est en train de se constituer un peuple d'adorateurs joyeux. Et plus nous l'honorerons dans notre vie de disciple, plus nous serons satisfaits, comblés et joyeux en lui. Et du coup, avec cette définition, j'ai du mal à voir que Dieu soit un Dieu triste, sans sens de l'humour. Il y a certaines des paraboles de Jésus qui ont sûrement dû faire beaucoup rire les gens qui entendaient, mais je ne vais pas développer ce point. Jésus, quelques heures plus tard, il va être crucifié. Et le moment est bien choisi, finalement, pour parler de la joie à ses disciples. Il va mourir quelques heures après. Et quand il mourra, ils se souviendront qu'ils doivent se réjouir. Dieu nous demande, il nous commande même, en tant que disciples, de rester dans ses commandements, de rester dans son amour. Et ça se fait en lui obéissant, du coup, en gardant et en obéissant à sa loi. Demeurons dans son amour, dit le texte, afin que notre joie soit parfaite. Et ce qui est juste incroyable, c'est que l'amour que nous promet Jésus, c'est l'amour que le Père a pour lui. Cet amour parfait qu'il y a entre le Père et Jésus, c'est le même qu'il y a entre Jésus et nous, et il attend à ce que ce soit réciproque. Et c'est seulement possible, puisque encore une fois, ça vient de Jésus. C'est lui qui a fait les premiers pas vers nous, et c'est lui qui a été volontairement crucifié, prenant sur lui la colère de Dieu par amour pour nous. Et cet amour qui va jusqu'à donner la vie pour ses amis, et il nous promet de l'avoir pour nous. Et il nous promet aussi que ça soit réciproque. Quel plan merveilleux! Et le meilleur de tout ça, c'est qu'il le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour notre joie. Le joie, c'est un des fruits de l'esprit de Galates, ce fruit qui vient de Dieu. Jésus avait cette joie parfaite qu'il nous transmet. Et il nous explique que tout cet enseignement, demeurer dans l'amour de Jésus, porter du fruit pour sa gloire, cultiver une relation avec lui, tout ça, c'est fait pour qu'au final, on ait cette joie parfaite. Cette vie était remplie. Et finalement, donc voilà, comme je vous l'ai dit, ressemblez à Jésus, célèbre Dieu et nous rend joyeux. Vas-y, encore une. Non, avant. Voilà. Blaise Pascal, c'est un philosophe français. Il a dit « Tous les hommes recherchent le bonheur ». Je vous lis la citation entière. « Tous les hommes recherchent le bonheur. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche qu'uniquement vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions, de tous les hommes, même jusqu'à ceux qui vont se pendre. Ils recherchent le bonheur quelque part. Et Dieu nous le donne sur un plateau, cette joie, ce bonheur. Tout disciple qui croit, qui demeure en Jésus pour porter du fruit, pour briller, C'est le sens de ce passage. Voilà, j'aurais pu vous parler du culte perso, de la prière, de la lecture de la Bible, de manière complètement décousue, et en prenant tous les textes de la Bible qui parlent de la prière, et ça aurait été sûrement très intéressant. Mais je voulais que ce soit inclus dans le plan de Dieu pour nous. Et le fait de demeurer en Jésus, c'est pas pour demeurer en Jésus, c'est pour la gloire de Dieu, pour que nous, on soit satisfaits en lui et qu'on soit joyeux. La prière et la lecture de la Bible, elle est incluse dans la volonté de Dieu pour ta vie. Si vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie, elle est là. Demeurez en Jésus. Pour que tu puisses lui ressembler, pour ta joie, et pour qu'au final, ça puisse célébrer Dieu. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour les amis qui sont là. Je te remercie pour tout ce qu'on a pu voir dans ta parole. Et je te remercie pour cette parabole du cep. Et tu es cet arbre incroyable qui veut que nous portions du fruit et qui nous donne cette sève. Aide-nous à rester attachés à toi pour qu'on puisse porter du fruit pour ta gloire. Père éternel, je te prie que tu nous donnes ce désir ardent de nous attacher, d'attacher notre vie à la prière. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Tellement de réveils ont commencé par des gens qui priaient dans leur coin. On te prie que tu puisses bouger la France, Seigneur, en faisant de nous des hommes de prière et des hommes attachés à la lecture de la Bible. Et des femmes aussi. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour ton plan parfait qui te célèbre en nous rendant joyeux. Amen. Thank you.